Merci à vous d'écouter Europe 1, il est 19h.
C'est une équipe très combative, généreuse, très bien organisée. Je m'attends à avoir le même répondant qu'ils ont eu face au Portugais.
Il est prudent, Didier Deschamps, à 24 heures d'affronter la Hongrie demain à Budapest. Les Bleus ont déjà pris la température sur place. Il fera chaud, c'est certain.
Ils étaient en première ligne pendant le confinement. Les livreurs de plateformes manifestaient aujourd'hui à Paris. Ils sont victimes d'insultes racistes et d'agressions.
Le mari de Delphine Jubilard mis en examen pour meurtre aggravé. 6 mois après sa disparition, on ne sait toujours pas ce qu'est devenue l'infirmière, ni même si elle est encore en vie.
L'appel des pédiatres en faveur des écoliers du primaire. Laissez-les retirer le masque en classe.
Les élections régionales en PACA, le Rassemblement national toujours donné en tête dans les sondages, mais la droite ne s'avoue pas vaincue.
HSBC France passe sous contrôle d'un fonds d'investissement. La banque sino-britannique a payé pour se défaire de son réseau. Explication dans ce journal.
Et puis l'Eurofootball, voilà la météo.
Avec Yanis Adali, c'est la fin de l'accalmie.
Elle était de courte durée, hein, cette accalmie, Isabelle. Oui, nous aurons demain une journée très orageuse sur l'ensemble du pays. Les orages arrivent de nouveau par l'ouest. Ils seront par endroits violents. Je vous en dis plus à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Voilà, j'étais impatient, mais il va falloir attendre encore 24 heures. On saura demain vers 16h45 si l'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. Les Bleus affronteront la Hongrie chez elle à Budapest.
Et même si les champions sont favoris, jouer les Hongrois à domicile ne s'annonce pas forcément comme une partie de plaisir. Hein. Jean-François Pérez, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Budapest.
C'est dans la fournaise du milieu de l'après-midi, alors que la température dépassait allègrement les 30 degrés au soleil, que les Bleus ont découvert le stade Ferenc Puskás. La seule enceinte construite spécialement pour cet Euro est la seule dont la jauge n'est pas réduite. Ils seront demain 63 000 Hongrois contre 4 000 Français. Didier Deschamps s'attend à une très grosse ambiance.
L'appui du stade plein et du public est quelque chose d'important et un avantage pour cette équipe hongroise. Ça les a bien aidés sur le premier match contre le Portugal. C'est une équipe très combative, généreuse, très bien organisée. Je m'attends à avoir le même répondant qu'ils ont eu face aux Portugais.
En grande conversation avec Paul Pogba, le sélectionneur a, semble-t-il, tranché. Peu de changements en vue, comme on aurait pu l'imaginer, à cause de la chaleur et de la supposée faiblesse de l'adversaire. Le 11 vainqueur en Allemagne devrait être reconduit à une ou deux exceptions près. Je ne prépare pas le deuxième match en pensant au troisième, assure Deschamps, persuadé que le duel de demain face à des Hongrois condamnés à l'exploit ne sera pas une partie de plaisir. Budapest, Jean-François Pérez, Europe 1.
France-Hongrie, ou plutôt exactement Hongrie-France, demain à 15h, à vivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Deux matchs sont au programme aujourd'hui. C'est le début de la deuxième période entre la Croatie et la République tchèque, et ce sont les Tchèques qui mènent 1-0. Et puis ce soir, l'Angleterre affrontera l'Écosse à 21h.
Dans l'actualité également, Christophe, l'avocat de Cédric Jubillard, qui est en colère après la mise en examen de son client dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillard.
Mise en examen pour meurtre aggravé. Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Son avocat estime que le dossier d'instruction est truffé d'incohérences et fait remarquer que l'on ne sait toujours rien des causes du décès ni de sa réalité.
Mais pour le procureur de la République, Dominique Alzéari, il y a un certain nombre de détails troublants, notamment cette machine à laver qui tourne lorsque les gendarmes arrivent le soir de la disparition de son épouse.
Ce qui a été relevé aussi, c'est que lorsque les gendarmes arrivent, vers donc 4h50, ils trouvent M. Jubilard occupé à déclencher une machine à laver, dans laquelle se trouve la couette du lit sur lequel dormait Mme Jubilard. Ceci se passe de manière, dans un contexte, vous en conviendrez, assez incongru, puisqu'elle a disparu, et ce n'est pas la première chose à laquelle on pense, d'autant plus que, je suis désolé de le dire, mais que ça se situe dans une habitation dont l'état d'entretien est extrêmement négligé, et on ne voit pas l'intérêt, puisque M. Jubilard lui-même est dans un pyjama, est vêtu d'un pyjama dont il explique qu'il ne l'a jamais lavé. Là, ce soir-là, expliquant que ce seraient peut-être les chiens qui auraient sali cet édredon, donc il était en train de le laver. Ce qui, à 4h50 du matin, n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense lorsque votre femme a disparu.
Le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzéari, il était au micro Europe 1 de Benjamin Peter. Europe 1, 19h05, vous savez que le port du masque n'est plus obligatoire depuis 2 jours, y compris dans les cours d'école, mais les pédiatres réclament sa fin pure et simple.
Ils réclament la fin du masque obligatoire, c'est ça, non seulement à la récréation, mais aussi dans les salles de classe pour les élèves du primaire. Le professeur Robert Cohen, vice-président de la Société française de pédiatrie.
Je ne dirais pas que c'est une ineptie, c'est simplement les différentes recommandations internationales font que quand la circulation virale est faible, comme c'est le cas actuellement, l'intérêt du port du masque des enfants dans les petites classes, c'est-à-dire entre le CP et grosso modo le CM2, est probablement complètement inutile. On avait accepté le port du masque quand nous étions en phase de croissance de l'épidémie et quand l'incidence de la maladie était élevée. Aujourd'hui, elle n'est plus utile. Alors, c'est important, on peut se dire, pour quelques jours, quel est l'intérêt de s'arrêter. Mais, un, derrière, il va y avoir les colonies de vacances et il va falloir pas qu'on continue à proposer qu'ils portent le masque en permanence en colonies de vacances quand ils sont à l'intérieur. Et deuxièmement, il va y avoir la rentrée. Et on peut penser qu'à la rentrée scolaire, comme l'année dernière, la circulation virale sera faible. Et à ce moment-là, rentrer avec le port du masque dans cette tranche d'âge-là n'a pas beaucoup d'intérêt.
Le professeur Robert Cohen, vice-président de la Société française de pédiatrie, avec Louis de Ragnel.
En Russie, le variant Delta continue d'inquiéter les autorités sanitaires. À Moscou, il représente aujourd'hui 90% des nouveaux cas, 9000 infections en 24 heures dans la capitale russe, qui ferme les fan zones de l'euro et interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes.
Ils étaient en première ligne pendant le confinement. Les livreurs de plateformes se sentent aujourd'hui abandonnés.
Et même méprisés par les clients et les restaurateurs, ils dénoncent les insultes parfois racistes et les agressions. S'ils ont fait le dos rond jusqu'à présent, Yasmina Katou, cette fois ils ont dit stop, ils ont manifesté place de la République.
Oui, une cinquantaine de coursiers se sont rassemblés place de la République. Ils réclamaient notamment d'être mieux payés, mais surtout une revalorisation de leur profession. Érigé en héros pendant le confinement, Ernest regrette une dévalorisation de son métier depuis le déconfinement.
Pendant le confinement, nous avons été au charbon. On s'est confronté face aux maladies, face aux citoyens et on a rendu énormément de services. Nous ne sommes pas des esclaves. Pas plus tard qu'hier soir, je me suis disputé avec le gérant parce que tout simplement, il n'avait pas de respect pour mon métier. On demande plus de considération.
De la considération et plus de sécurité. En seulement 10 jours, 3 livreurs ont été victimes d'agressions racistes. Uber Eats doit mettre en place un bouton d'alerte cet été. Il permettra de signaler une insulte ou une agression via la plateforme. Les données GPS seront ensuite transmises aux forces de l'ordre. Ce n'est pas assez, dit Jérôme Pimaud du collectif des livreurs parisiens autonomes de plateforme. Il souhaite créer un groupe d'alerte entre livreurs.
L'idée, voilà, c'est via un groupe Telegram de pouvoir avoir quelque chose de très très immédiat. Il envoie une alerte, voilà, j'ai un problème avec un client, avec une cliente, avec un restaurateur, il m'a manqué de respect. Et puis les gars, ils arrivent en soutien en fait pour faire comprendre à l'agresseur que ben, le livreur n'est pas tout seul.
Une nouvelle manifestation est prévue le 18 juillet prochain, place de la République.
Yasmina Katou.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1, avec une banque qui paye pour se défaire de son réseau. HSBC se sépare de ses agences en France.
Et puis les élections régionales, les petites listes n'ont pas dit leur dernier mot.
A tout de suite. Europe 1, 19h10, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre. Et les agences bancaires HSBC de France changent de main. Christophe, c'est le fonds d'investissement américain Cerberus qui va les reprendre.
L'opération vient d'être officiellement annoncée. Emmanuel Dutheil, Cerberus ne va pas payer pour acheter le réseau de plus de 240 agences. Non, c'est HSBC qui va signer un énorme chèque pour se séparer de sa division.
L'idée est assez simple, hein. Les agences bancaires de HSBC, qui représentent 800 000 clients et près de 4 000 collaborateurs, ne gagnent pas d'argent. C'est même une activité très déficitaire. Et donc, pour se séparer de cette division, le géant sino-britannique préfère payer 1,6 milliard d'euros plutôt que d'essuyer année après année des pertes. Le groupe n'avait pas trop le choix en plus, hein, il n'y avait pas beaucoup de candidats pour racheter cette activité. C'est un chèque sans précédent en France dans l'histoire d'un actif bancaire. C'est le signe que les agences n'ont plus la cote, la fréquentation s'est effondrée et ça s'est encore accéléré avec le Covid. Même si le cas de HSBC est particulier, c'est un petit réseau. Toutes les grandes banques ferment par centaines des agences et tentent avec difficulté de trouver le modèle de demain.
Les explications d'Emmanuel Dutheil, chef du service Éco d'Europe 1. La campagne maintenant pour les régionales, on est à 2 jours hein, du premier tour et certains candidats donnés, battus d'avance par les sondages, veulent déjouer les pronostics.
Oui, et surtout s'assurer une place au second tour à condition de recueillir au moins 10% des suffrages. C'est le cas de la liste Debout la France en PACA. La tête de liste Noël Chuisano compte bien peser sur cette élection.
Bah, pour nous, c'est simple. Hein. Donc, nous sommes engagés. Donc, nous avons une liste de personnes de la société civile, pas d'élus déjà du conseil régional. Et notre objectif, c'était de présenter une cohérence, on va dire, politique, économique pour la région. Et donc nous portons les valeurs du RPR, je vais dire des années 90, hein, Pasqua, Seguin, humanisme, social, voilà, c'est ces valeurs qui pour moi sont toujours essentielles dans la constitution de notre équipe. Mes colistiers partagent les mêmes valeurs et j'en constate que les Républicains ont perdu ces valeurs d'origine. Quoi.
Noël Juizano, tête de liste de Debout la France en région PACA. Il était au micro d'Alexis Delafontaine.
Et ces élections régionales, ce premier tour, vous pourrez suivre les résultats en direct sur Europe 1 dimanche dès 19h30 en compagnie de Wendy Bouchard, de toute la rédaction du service politique des Grandes Voix et des invités. Évidemment, rendez-vous donc dimanche 19h30 sur Europe 1.
Allez, un dernier mot de l'Euro, Croatie, République tchèque. En ce moment, on est en deuxième période, 9-4 minutes de jouer déjà et un partout entre la Croatie et la République tchèque. Un rappel ce soir, l'Angleterre dans ce groupe D affrontera l'Écosse à 21h.
C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci beaucoup à vous Christophe. La météo, on vous retrouve Anissa Haddadi et le temps redevient instable demain.
Oui Isabelle, avec dès le début de la journée, tout le long de la façade atlantique, des averses et un ciel très couvert partout ailleurs. La matinée est ensoleillée, avec tout de même sur l'Hérault un risque d'orage qu'on va surveiller de près. Et puis dans l'après-midi, les orages qui concernaient la façade atlantique vont vraiment s'engouffrer dans le pays. À l'ouest, le temps devient très orageux avec un risque de fortes pluies, en particulier dans le nord-ouest et sur les pays de la Loire. On va surveiller aussi ce qui se passe du côté de la Gironde et du Limousin, où là aussi les orages devraient être violents. À l'est, de l'Alsace à la Provence, toujours une belle journée estivale, du soleil et surtout des fortes chaleurs. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que le département du Rhône est toujours, lui, placé en vigilance orange canicule. Dans la matinée, les températures sont plus fraîches, donc 11 degrés à Saint-Brieuc, 16 à Paris, 18 à Nevers, 21 degrés à Strasbourg. Dans l'après-midi, toujours de la fraîcheur à l'ouest, 17 à Cherbourg, 22 à Rennes, 23 à Biarritz. Ailleurs, il fait chaud, 28 à Paris, 31 degrés à Marseille, 33 à Lyon et 34 pour Grenoble ou encore Strasbourg.
Mais on va quand même pouvoir mieux dormir hein, puisque les nuits sont plus fraîches et ça c'est une très bonne nouvelle.
On va aérer, ouais.
Merci Anissa, on vous souhaite un très bon week-end.
Bon week-end.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.